Là, on va faire la transition extrêmement rapidement, si possible, avec la dernière intervention de Maïté Poussajoli, qui est donc anthropologue à l'Université d'Amiens, qui a fait une présentation. Donc voilà, une présentation qui s'intitule « Des punks, des chants chez les hippies, histoire d'une enquête ».
Bon, alors bonjour. Je travaille sur les gens qui vivent en collectif dans le sud de la France, dans l'Aveyron, où il y a une population assez bigarrée, assez hybride, de gens qui essayent de vivre autrement, en dehors du système voilà, salarié, capitaliste, tout ça. Ça fait 3 ans que je vais faire du terrain dans cette région, mais avant moi, ça fait 20 ans que je suis ethnologue, enfin que je fais de l'ethnologie. Normalement, je travaille, ma spécialité, c'est sur les mouvements indiens en Argentine. Donc apparemment, rien à voir, et ça n'a pas grand-chose à voir, mais un peu. On va voir, il y a des parallèles, quand même. Et du coup, j'ai lu dans le... Il y a beaucoup d'articles qui m'ont intéressée dans la revue La scène punk en France, et du coup l'article aussi de l'entretien avec Marie Rouet, qui a fait tout un détour par des terrains lointains avant de s'intéresser à l'univers punk dans les années 70. Et du coup j'arrive un peu avec des méthodes que j'ai utilisées dans les terrains lointains, et un univers que je connais relativement mal, notamment pour le punk. Donc j'espère, je demande votre indulgence, j'espère que je ne vais pas dire des grosses conneries. Voilà. Je vais essayer de faire de mon mieux, j'ai beaucoup lu, donc j'ai quand même bien travaillé, mais c'est quand même récent mon intérêt pour le punk spécifiquement. Parce que c'est en venant au séminaire au mois de mars que je me suis dit, mais ouais, c'est ça, en fait, il y a de ça dans les collectifs sur lesquels je travaille. Il y a une cohabitation avec des gens qui ont des arrière-plans socio-culturels différents, il y a des clivages, et en même temps, il y a de l'hybridation qui se passe. Voilà, il y a quelque chose à creuser là. Mais c'est quand même, pour moi, un univers que je découvre. Et quand, en avril, je me suis dit, bon, bah, je vais travailler sur le punk, en fait, comme ça, j'interviendrai au séminaire, ça va être sympa, puis je vais avoir des trucs à dire. Et là, plus personne se disait punk. Alors, j'étais quand même bien emmerdée. Et ça m'a fait, finalement, ce que ça m'a fait sur mon terrain argentin, où je travaillais sur le mouvement indien, et dans 2 villages des communautés indiennes, et... Quand j'arrive sur place en me disant je travaille sur les mouvements indiens, donc du coup c'est quoi être indien, tout ça, personne ne veut s'auto-identifier comme indien. Parce que ça renvoie à un mythe, ça renvoie à une histoire passée, ça renvoie à l'histoire précolombienne, l'indien, aussi un mythe autour de ça, et puis aussi l'indien colonial stigmatisé, qui renvoie à quelque chose de très dévalorisant, parce que l'Indien dominé, etc. Et là, je trouve qu'en fait, finalement, je me demande s'il n'y a pas un peu des parallèles avec le punk, le punk avec l'authenticité du punk dont on parlait, justement, le mythe aussi du punk des années 80, enfin, ce moment mythique du mouvement punk, et du coup, qui rend sa contemporanéité, justement, questionnable, difficile, pour certains. Se dire punk, aujourd'hui, ça renvoie à un truc passé, un peu mythique, donc certains ne se sentent pas légitimes pour le faire, pour se dire punk. Et aussi, il y a le côté, selon la proximité avec le milieu, le côté aussi stigmatisé dans le punk qu'on voit aussi sur l'espace public, le punk à chien, un peu dévalorisé, stigmatisé, etc. Donc il y a cette double chose qui fait que s'auto-identifier comme tel, c'est pas si simple. Et moi, trouver des punks qui me disent punk, c'était pas simple non plus sur le terrain, en fait. Donc du coup... J'ai beaucoup travaillé aussi sur les gens, comment ils se qualifient les uns les autres, en fait. C'est donc l'auto-reconnaissance existe, mais elle n'est pas évidente. Mais en général, les gens disent « Ah oui, lui, il est punk » ou « Lui, il est plutôt hippie » ou « Hippie-punk ». Parce que hippie, c'est pareil, ça renvoie à une histoire, un peu aussi à un mythe, mais aussi à une stigmatisation. Donc c'est pas évident, ça rend leur contemporanéité pas si facile, mais finalement on retrouve quand même beaucoup ces appellations sur le terrain, et le nom hippie punk aussi, cette hybridation qui existe sur ce terrain des alternatives. Donc là j'ai déjà passé 10 minutes, non, il est quelle heure? Il est... Comment? Bon d'accord, merci, je me détends. J'ai essayé, parce que dans le train, j'en étais à l'introduction, j'avais passé une demi-heure, et j'avais encore 17 pages, je me dis merde. Enfin bref, donc là j'essaye de... Ouais, Justement, là, je ne lis pas, donc c'est un peu en freestyle aussi. Un peu compliqué. Voilà, au niveau méthodo, ben, du coup, je fais de l'ethnographie comme je fais sur mes terrains lointains, en essayant de partager la vie des gens, le quotidien des gens, et aussi de faire des entretiens individuels, de prendre, dans ces lieux collectifs, d'essayer d'avoir des moments aussi à deux, où les gens reviennent sur leur histoire, leur parcours, leur trajectoire, et de comprendre comment ils sont arrivés là. Et justement, Eric, tu disais de travailler aussi sur les histoires de vie, en fait, de tous ces gens qui se retrouvent dans ces univers et de comprendre ce qui les amène là. Des fois, c'est des choses différentes. Des fois, il y a des points communs. Et du coup, avec aussi ce que Marie Rouet appelle, quand elle fait son terrain, une observation bienveillante. En fait, quelque chose... C'est vrai que moi, j'ai une affinité pour ces gens qui essayent de vivre autrement, donc qui s'expliquent aussi par mon histoire. Donc ça, je vais revenir aussi deux secondes. Enfin, deux secondes, j'essaie d'être rapide, parce que sinon, je peux y passer des heures, on peut faire ma psychanalyse, tout ça. Mais les affinités que je peux avoir avec ces milieux-là... alors, moi, c'est pas l'univers punk, c'est plus l'univers hippie que j'ai rencontré quand j'étais adolescente, dans les années 90. Donc hippie, c'était déjà un peu décalé, mais... J'ai rencontré, alors je ne raconte pas l'histoire tout entière, je ne la fais pas trop longue parce que sinon on est encore ce soir, mais voilà, c'est une famille dans les Pyrénées, donc dans les années 90, donc c'est déjà bien, sur le marché on faisait sensation, vous voyez. Et alors attends, je vous mets un peu des photos parce qu'ils étaient beaux, c'est plus tellement le cas aujourd'hui, ils sont séparés, ça c'est un peu la merde, mais là, voilà, ils sont beaux, hein, non? Puis alors eux, ils étaient beaux aussi, les enfants. Moi, j'étais entre les parents et les enfants au niveau de l'âge, mais ça faisait un peu fratrie. Et c'est vrai que j'étais particulièrement bien là. J'y passais mes étés, des fois les Noëls, parce que, aussi, bah, une histoire difficile, comme beaucoup de gens sur ces terrains que je rencontre et qui font qu'on a des points communs, même si je ne connais pas les univers musicaux et tout ça. Mais j'étais orpheline jeune et je me suis retrouvée dans une famille, donc un milieu bourgeois, ce qui n'est pas le cas de... toutes mes enquêtées, mais où j'étais mal parce que les gens n'avaient pas choisi que je sois là, et du coup, j'avais trouvé de la famille ailleurs, donc c'est ce qu'on disait sur les... finalement, les ruptures familiales aussi, et de se trouver une tribu ailleurs, et ça, je rencontre quand même pas mal ça sur le terrain, dans mes lieux collectifs. Puis aussi des dispositions, j'habite à la campagne depuis... Donc c'est la campagne qui était repoussoir pour l'univers punk dans les années 70, mais qui, au fil du temps, l'histoire... enfin de ce que j'ai lu avec le mouvement anarcho-punk, l'écologie politique, voilà, plein de choses qui fait que le retour à la campagne, c'est plus aussi ringard que... voilà. Donc moi, faire mon potager et tout ça, maintenant, ça devient carrément à la mode. Maintenant, je suis branchée. De ringard, je passe branchée. Et c'est très pratique. En fait, finalement, tout ce savoir-faire qui, moi, m'intéresse et j'aime faire sur ces collectifs pour l'intégration, c'est facile aussi parce qu'on parle de choses qui... Enfin voilà, on peut s'échanger des trucs, tout ça, donc ça c'est assez pratique. Et puis la vie collective aussi, j'ai jamais vécu dans ce type de lieu, mais j'étais animatrice de colo pendant 10 ans, donc du coup, le fait d'être, de vivre en collectif et de comprendre qu'il faut faire à bouffer, que machin, que tout ça, les choses un peu pratiques qui finalement sont très importantes quand on vit ensemble, ça, et j'y suis assez familière aussi, donc ce qui fait que j'ai quand même des dispositions particulières et une attirance pour ces univers. Pour ce qui est de la méthode, j'arrive et j'assume ce rôle d'ethnologue et de sociologue. Au début, je me suis dit, les gens ne vont pas vouloir me parler, mais je veux assumer quand même ce que je fais. Et en même temps, moi, je sais que je n'aurais pas osé y aller sans avoir ce prétexte-là. Sinon, j'aurais été trop timide, je pense, pour aller les voir comme ça, gratos. Enfin, alors qu'il y a des gens sur place qui me disent, oh là là, t'es courageuse, moi je ne viendrai pas avec une enquête et tout. Alors moi, sans enquête, je n'aurais pas osé. C'est comme en Amérique latine, il me fallait un peu un prétexte pour aller dans les villages, parler avec les gens, vivre avec eux et tout ça. Voilà. Donc du coup, j'ai toujours un peu assumé ça. Mais j'ai eu la chance que ça se passe bien et que finalement les gens soient assez intéressés de comprendre aussi ces univers, de revenir sur leur propre histoire, de ne pas si réticents que ça à finalement l'objectivation aussi de ces processus, tout ça. Et puis, il faut dire que, ayant travaillé 20 ans en Amérique latine, ça, c'est quand même pratique. Parce que l'Amérique latine, il y a tout un... des représentations très valorisées, en fait, sur les Indiens. Le côté, justement, tribu, voilà, qui lutte contre un modèle dominant. Il y a le côté aussi politique avec le Chiapas, le commandant Marcos, tout ça. Il y a aussi le chamanisme, la spiritualité. Il y en a pas mal qui sont adeptes de pratiques comme les huttes de sudation, puis l'ayahuasca, tout ça. Enfin, bref, il y a plein de choses qui font que d'avoir passé beaucoup de temps en Amérique latine rendent ma venue encore plus facilitée, en fait. Je me rappelle d'un gars, justement avant un concert punk, on en reparlera, et on discute, c'était très sympa. Puis tout d'un coup, j'explique que je suis ethnologue, sociologue, machin. Il me dit, ah bon, ben, du coup, la conversation va s'arrêter là. Et alors, je me dis, oh merde. Bon, mais voilà, en même temps, c'est comme ça. Puis je dis, oui, mais c'est parce que je suis ethnologue. Il y a 20 ans, enfin, 18 ans sur l'Amérique latine, tout ça, et dans les Andes, machin. Et je m'aperçois qu'ici, il se passe plein de trucs intéressants, que les gens... Ah, et là, il me fait visiter le lieu, il me raconte son histoire, etc. En fait, c'est vrai que ça ouvre aussi... Enfin, j'ai cette chance, voilà, de ne pas être simplement le sociologue qui arrive sur le lieu, qui a le côté ethnologue de l'Amérique latine qui favorise ça. Voilà. Pour ce qui est de la méthode. Pour les entretiens, j'étais très étonnée de la façon dont les gens se livrent, en fait. Et c'est Philippe Lyotard qui dit ça aussi dans son article Le Corps Punk, sur finalement... la façon dont vraiment les gens veulent bien jouer le jeu, enfin la plupart, les plus radicaux, c'est un peu plus dur, j'en reparlerai. Et je suis assez étonnée aussi parce que c'est beaucoup... je m'attendais à ce que les gens en restent un peu à la façade de ce qu'on essaye de faire dans le collectif, parce qu'il y a tout un côté exemplarité de ces modes de vie, enfin essayer d'être dans l'exemplarité. Mais là, j'étais étonnée que les gens livrent vraiment... Ben voilà, toute leur trajectoire, tous leurs idéaux, etc., mais aussi toutes les limites, toutes leurs contradictions, tout ce qu'ils vivent aussi difficile sur le lieu. Et je pense que c'est aussi un moment, je pense pour eux, d'une personne... Il y a Zimmel qui développe la figure de l'étranger familier, de quelqu'un finalement dont on sent qu'il a des affinités, mais qui est neutre, qui est extérieur, et à qui finalement on livre des choses qu'on ne livrerait pas à quelqu'un avec qui on côtoie et qu'on... Voilà, peut-être comme son psy, j'en sais rien, mais d'ailleurs, il y en a un qui m'appelle la psy à domicile. Et voilà, et des fois, je suis vraiment étonnée. Des fois, j'ai envie de dire, vous savez, j'enregistre, en fait, qu'est-ce que j'ai fait de ça, quoi. Les conflits entre machin. Enfin, pour moi, c'est intéressant, mais je me dis, est-ce que je vais oser en parler, quoi. Enfin, voilà, qu'est-ce que je vais faire de ces données. Alors, pour ce qui est de l'Aveyron... c'est le milieu alternatif à Vérona est très développé. En fait, c'est très marqué par l'histoire du Larzac, cette région-là. C'est le Larzac. Et du coup, ça a attiré plein de tentatives de retour à la nature, à différentes époques. En fait, il y a Estelle Girard dans Estelle, t'es où? T'es là ou pas? Salut. Voilà, Estelle, dans ton intervention que j'ai écoutée sur le site de Pind, qui est super, voilà, sur les punk bâtisseurs, tu reviens effectivement aussi sur... Il y a un bouquin super de Catherine Rouvière qui revient sur les différents moments de ces volontés de retour à la campagne, de retour à la campagne, et c'est vrai que dans les années 70, c'était beaucoup une petite bourgeoisie cultivée, etc., qui essayait de trouver des alternatives, et de plus en plus aussi, là, dans les années 2000, il y a aussi beaucoup de gens plus précaires qui cherchent des alternatives à la crise économique, etc. Donc du coup, se côtoient différents milieux sociaux, c'est pas que des bobos en quête de verre, quoi. Il y a des gens qui vivent... Il y a beaucoup de modes de vie semi-nomades, en camion, etc. Donc, en fait, du coup, ça se côtoie des gens avec de milieux sociaux différents. Ce n'est pas si uniforme qu'on pourrait le penser, enfin, en tout cas que moi, je le pensais, et avec des arrière-plans socioculturels différents. Alors, voilà, de l'extérieur, on pourrait penser que c'est assez homogène. D'ailleurs, cet univers un peu hybride, hein, en fait. Voilà. Là, je vous montre, ça c'est une photo de Cindy, qui est, voilà, le crâne rasé avec les rastas, les tatouages, mais en même temps, voilà, et puis tout l'univers aussi des circassiens, en fait, où il y a un peu d'hybridation qui se passe. En fait, tous ces univers-là, sont appelés indifféremment par les Aveyronnais les Pookies. Donc, la traduction, c'est punk pourri. En fait, c'est le diminutif de punk pourri. Donc, en fait, c'est comme vous disiez, Solveig et Luc, quand vous revenez dans votre article d'introduction de la scène, sur le fait que l'étymologie du punk, ça veut dire vaurien, pourri, etc. Là, c'est redondant, c'est punk pourri. En fait, vous voyez, on accentue le truc. Mais en même temps, il y a un petit côté un peu affectif. Je trouve que Pookie, ça fait pas très... Enfin, ça fait un peu inoffensif quand même. Enfin, voilà. On s'est habitué à la présence de ces gens-là. Mais il y a une espèce de parallèle. On ne fréquente pas les mêmes lieux, on n'a pas les mêmes pratiques, on n'a pas le même look, etc. Et ça fait comme un univers assez clivé. Finalement, on cohabite, mais on ne se croise pas beaucoup. Mais en même temps, ce n'est pas si homogène que ça, cet univers. Et je vais vous présenter différents types de collectifs. Alors... parce qu'en fait, c'est un vrai laboratoire. En fait. Sur 20 km², il y a 5 types de collectifs, par exemple. Vous voyez ? Donc, c'est 20-30 km², c'est quand même très pratique. En fait, si on veut essayer de travailler sur justement ces dynamiques alternatives dans leur diversité, c'est assez pratique. Donc là, je vais vous présenter les collectifs, moi, par ordre de découverte. Et finalement, il se trouve que ça va du plus hippie au plus punk, un peu. Donc, je vais commencer par le plus hippie, celui qui m'a introduit dans la région. C'est ça s'appelle le Moulin de Lin. En fait, je suis arrivée là, c'est grâce à Anne, qui est une de mes très bonnes amies, qui est circassienne, et qui vit dans un collectif, là, dans le Moulin de Lin. Il y a pas mal de résidences d'artistes, etc. L'ambiance est très gentille, tout ça, c'est super. Voilà. Donc ça, c'est mon entrée où elle m'a expliqué qu'il y avait tous les différents collectifs. Et c'est là que je me suis dit, waouh, ça, je trouve ça intéressant. Vraiment, j'ai envie de découvrir ça. Voilà. Donc ça, c'est le Moulin de Lin. Ensuite, je suis allée à Vispins. Vispins, c'est à 10 km du Moulin de Lin. Et là, c'est plus un retour à la... C'est un groupe... de gens finalement très bien, avec pas mal de ressources économiques, sociales, scolaires, etc. En fait, des gens très bien dotés qui ont envie de construire un éco-hameau, en fait. Donc voilà, c'est une expérience intéressante. Alors pendant 5 ans, c'est 15 personnes, donc il y a 2 ingénieurs agronomes, voilà, des architectes, tout ça, machin, qui sont pris la tête pendant 2 ans à construire tout un projet, trouver des financements, voilà. Et qui ont réussi à construire ce lieu. Bon, ça, il y a eu 5 ans de co-construction très, très intense, et au bout de 5 ans, il y a eu beaucoup de conflits et tout ça, dû à des adultères, machin, c'est parti un peu en live, et à partir de ce moment-là, il y a eu, sur les 5-15 personnes, 10 personnes qui partent, donc ça fait quand même beaucoup dans un collectif, et après, un turnover avec des gens qui viennent en camion, vivre en semi-nomade, tout ça. Donc du coup, plus du tout aussi homogène, enfin, socialement. Oui. Mais, en fait, durant ces 5 ans, il y a eu le passage de Yann, qui est beaucoup plus punk, et qui, évidemment, c'est le récit de la venue de Yann dans ce collectif, qui m'a fait beaucoup réfléchir, justement, à la cohabitation des milieux sociaux, etc. Et du coup, j'y reviendrai ensuite. Donc ça, c'est Vispins, l'éco-hameau idéal. Donc, enfin, en tout cas, la tentative d'éco-hameau idéal. Ensuite, à 5 km, il y a l'Anturel. L'Anturel, alors là, c'est des gens beaucoup plus penchés sur la spiritualité, tout ça, qui ont essayé de faire un oasis en tout lieu. Vous savez, plus inspiré Pierre Rabhi, machin, tout ça. Et qui méditent près de la route, donc ça fait quand même beaucoup de sensations dans le milieu, dans le coin, dans le voisinage, parce qu'ils sont tous en ronde à faire la méditation, tout ça. Mais c'est un peu... ça fait sensation, quoi. Et eux, c'est plus axé sur la spiritualité, tout ça, là, on voit méditation, chant, tout ça, voilà, et du coup là c'est le panneau, c'est Oasis de l'Anturel, et en haut il y a écrit, c'est des gens qui ont rajouté Fanta de Bougnol, en fait, un peu pour... il y a beaucoup d'humour en fait dans ces univers, enfin, pas forcément sur le lieu, mais les gens de l'extérieur le voient avec beaucoup... un peu d'ironie, mais voilà. Et ça, ce lieu-là, il y a eu à une époque toute une vague de circassiens, Voilà, et où du coup, après, en fait, il y a des turnovers. En fait, c'est ça. Moi, je suis allée 8 fois sur le terrain en 3 ans. J'y passe à peu près 2 semaines. Et à chaque fois, je vois les collectifs changer complètement. En fait, j'y vais en décembre et j'y vais en juillet. Ça ne ressemble plus du tout à ce que j'ai vu 5 mois avant. Ça a tourné, il y a eu un turnover, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Du coup, ce n'est pas figé. Et ça, c'est l'intérêt. En fait, j'aurais bien aimé, moi, pouvoir faire un terrain beaucoup plus long en une fois. Mais là, ça a aussi un intérêt de revenir régulièrement parce qu'on voit les choses changer. Et aussi au niveau relationnel, parce qu'il y a De Vereux, justement, dans son bouquin de l'angoisse à la méthode, qui dit que finalement, même le temps passé, quand on n'est pas ensemble, ça contribue à l'approfondissement des relations. Et que finalement, même si on ne s'est pas vu depuis 3 mois, c'est comme si on se connaissait depuis 3 mois. Et c'est comme si je les connais depuis 3 ans, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Même si, sur place, j'ai dû passer que 4 mois. Voilà, Moulin de Lin. Et là, ces deux collectifs, c'était facile d'entrer parce qu'ils connaissaient Anne, le Moulin de Lin, machin. Enfin, c'est tout à proximité. Et puis, des univers. Alors, ensuite, ça, c'est la Remoutariée. Alors, la Remoutariée, ça, c'est une histoire un peu différente. C'est à l'origine un groupe de jeunes qui vivaient en squat à Amiens. Donc là, moi je suis à l'université d'Amiens, donc j'habite dans le Nord, donc c'est de la même ville. Et du coup, ces jeunes-là vivaient dans un squat qui est très connu à Amiens, qui s'appelle La Marmotte. Et ensuite, ils sont allés à Frayssinous, que je vais vous présenter ensuite. Frayssinous, ils ont eu envie de verre, hein, c'est ça. Et Frayssinous, c'est un lieu assez mythique dans la région de l'Aveyron. Je ne sais pas si quelqu'un connaît. Personne connaît? Ah! Oui. Alors, Frayssinous, c'est pas vraiment un collectif, c'est plus un squat, en fait, parce que c'est un lieu qui est mis à disposition. Il n'y a personne qui le gère, personne qui l'a construit, il n'y a pas de... Et du coup, les gens peuvent y passer, et les gens, finalement... il y a une énergie... Il y a eu beaucoup de passages de gens un peu punk et tout ça, et les gens peuvent, pour les psychotropes, les choses comme ça, et les concerts punk, qui se sont beaucoup faits à Frayssinous. Parce que il n'y a pas de... Dans les autres lieux dont je vous parle, il y a les fondateurs, il y a une espèce de contrôle quand même sur ce qui se passe. Là, Frayssinous, ce n'est pas le cas. Et la Remoutariée, ils ont passé 8 ans à Frayssinous. Et puis, il y en a un du groupe qui a hérité et qui a pu acheter un lieu. Et du coup, il l'a mis sous un bail amphithéotique. Et le lieu à disposition des groupes avec qui ils avaient envie de construire quelque chose. Et du coup, Frayssinous, c'est plus un lieu de passage. C'est pas vraiment un lieu où les gens restent vraiment à long... Enfin, quoique, rester 8 ans, c'est déjà pas mal. Mais c'est ce qu'on... En fait, les gens l'appellent aussi comme une pépinière de collectif. Parce que c'est où des gens qui ont des affinités vont décider de faire quelque chose ensemble. Donc du coup, ce lieu, Frayssinous, est particulier. Je vais vous en parler... Ensuite, donc là, la Remoutariée, c'est des gens du coup plus issus du monde urbain, enfin, et de squat urbain, donc pas tout à fait le même esprit. Et Renaud, qui est à l'origine, enfin, qui avait hérité, machin, qui m'expliquait qu'en fait, eux, c'était plus une culture plus punk quand même, il m'a dit, les Lailai, ils sont arrivés avec l'installation sur le lieu. Donc les gens plus hippies, quoi. Fait que justement, qui était attiré par ça. Et du coup, il y a une cohabitation. Ben, par exemple, il me dit, tu vois, Juliette, des gens comme Juliette, qui est sa petite amie, donc il y a des métissages, des hybridations, qui dit, voilà, Juliette, elle est arrivée typiquement avec le groupe de paysans nomades. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler ça. C'était après la COP, je ne sais pas quoi. En fait, il y a eu un groupe qui s'appelle Paysans Nomades, et des gens qui naviguent de collectif en collectif, pour essayer de vivre autrement, développer des activités, mais qui sont pas forcément avec une énergie punk. Voilà. Donc, j'ai un peu de photos de la Remoutariée. Donc ça, c'est le chantier collectif du jardinage. Il y en a pas mal qui vivent dans des yourtes. Alors ça, c'est les régimes alimentaires des uns et des autres. Là. Alors, entre ceux qui sont végétariens, ceux qui sont sans lactose, ceux qui sont sans gluten, ceux qui sont vegan et les autres, en fait, c'est un peu le bordel pour faire à manger le soir, vous voyez ? Et même le midi. On fait du riz, des légumes et on fait... voilà. Il y a un des fondateurs du lieu qui me disait « Putain, j'ai envie de mettre un panneau, fuck the régime. » Mais en fait, c'est vrai que maintenant, c'est quand même quelque chose de très très fort. Ça, par exemple, ça m'a fait... C'est... là, par exemple, au petit-déj, c'était un gars qui lisait un livre, c'était « La dynamique de l'insurrection », quelque chose comme ça. Il y a tous les fanzines, mais vous voyez, derrière, il y a le truc un peu hippie. Enfin, c'est marrant, c'est le côté un peu hybride, comme ça. Voilà. Alors, justement, sur le genre, ce Renaud qui a hérité la machin, tout ça, il est toujours habillé en jupe, en robe. Une fois, il est venu à la maison, je vais faire une de mes robes. Voilà, il y a cette idée un peu de jouer sur le genre, même si apparemment il est hétéro, je sais pas. En fait, j'ai pas osé lui demander si c'était plus ouvert que ça, je sais pas. Donc, en tout cas, il est vraiment habillé souvent en robe avec des boucles d'oreilles, tout ça, c'est marrant, tout en faisant assez masculin. Il y a Ludivine, qui, elle, vit en camion, elle est semi-nomade, qui est, du coup, il y a tout l'intérêt de la mécanique, en fait, pour être autonome. Donc, du coup, les filles comme garçons, c'est vraiment souvent des sujets de conversation à table, comment on change ceci, tout ça, machin. C'est très... Et du coup, les genres habituels... Et Else, donc là qui est une qui a beaucoup voyagé en vélo, qui est une bici punk. En fait, je sais plus comment j'ai lu le bouquin éco-punk là, le truc de. Enfin, et qui elle se revendique punk. Donc je vais vous. Elle se fait appeler il dans son groupe. Elle est là de passage. Hein. Elle se fait appeler il dans son groupe d'amis qui est punk apparemment. Voilà. Et son copain l'appelle mon copain. Oui. Donc ça, c'est marrant, je trouvais ça très original. Et je lui ai demandé si elle avait eu des expériences aussi homosexuelles. Elle m'a dit que des fois, elle avait eu des attirances, mais qu'elle n'avait pas osé de faire ses avances, tout ça. Mais du coup, voilà, il y a un peu un jeu sur le genre. Et voilà, alors ça, c'est la signification des tatouages. Je sais que ça, ce tatouage-là, c'est parce que c'est un tatouage qu'elle avait vu dans un film porno lesbien. D'une fille qui avait ça sur la hanche. Donc, ça faudrait... elle m'a donné la référence. Enfin, ça va être exotique pour moi. Et du coup, voilà. Enfin, il y a quand même toute une réflexion dans le mode de vie et sur le genre, quoi. En permanence. Et ça, c'est Renaud, qui, lui, vit à Amiens, dans des squats à Amiens, et qui est là de passage. Enfin, il y a tout un réseau entre Amiens. Et donc, ça a facilité mon intégration, le fait d'être d'Amiens, en fait, dans ce lieu-là, et avec Juliette qui a voulu construire une espèce de rose, enfin le côté un peu plus lilaï, de faire un truc joli, de permaculture, de machin, tout ça. Vous voyez. Donc, c'est marrant, en fait, c'est vraiment des univers. Et voilà. Ah, ça, c'est Frécinous. Donc du coup, moi, je suis arrivée à Frécinous par l'intermédiaire de la Remoutarié. Et Frécinous, donc j'ai été à mon premier concert punk. Donc pour moi, qui était quand même assez exotique, et de musique expérimentale, c'était un concert de détecteurs de métaux. Je ne sais pas si vous voyez, il a une masque à gaz et il fait du détecteur. Alors pour moi, je pense que mes 20 ans en Amérique latine, dans les Andes, tout ça, je n'ai rien vu de plus exotique, en fait, que ça, en fait. Et enfin voilà, pour moi, l'anthropologue, c'était vraiment des univers... inconnue que je découvre et du coup que j'essaye de comprendre et tout ça. Et je me rappelle avoir vu une fille, là, parce que c'était quand même insupportable, hein, c'est des Larsen, je sais pas, détecteur de métaux, je sais pas, vous connaissez peut-être, je sais pas, mais détecteur de métaux, c'est horrible, quoi, c'est un Larsen, je me dis, mais comment les gens supportent ça, quoi, enfin, je veux dire, et quel plaisir ils peuvent y trouver. Et j'ai croisé une autre fille la semaine suivante qui m'a dit, je dis, ah, t'étais au concert, j'ai dit, bah, ça, toi, t'as supporté, enfin, elle dit, ah ouais, c'était sympa. Elle me dit, mais faut avoir pris des produits. Donc en fait, voilà, je pense que j'étais pas tellement adaptée. J'étais pas tellement adaptée. Voilà. Alors sur Vispince. Sur Vispince. Il faut que je me dépêche. Ouais, je me dépêche. Donc sur Vispince, par exemple. Je me dépêche. Il y a Claire qui est arrivée après où il y a eu ce gros turnover après les... Vous vous rappelez l'écho à mon idéal où tout le monde est parti à un moment parce qu'il y a des problèmes de couple et tout ça, et des gens qui sont arrivés en camion. Et par exemple, Claire, qui vit en camion, vous voyez son camion de déménagement. Donc ça, je l'ai rencontré en 2016. Elle retapait son, elle s'était posée là pour retaper son camion. Et elle a la coupe, l'iroquoise, là, bien rasée sur le côté. Et du coup, c'était une énergie plus punk sur ce lieu, l'écho hameau idéal, un peu bobo, tout ça. Et finalement, elle a quand même réussi à... Il y en a pas mal qui sont partis à ce moment-là, qui sont arrivés comme elle, puis qui n'ont pas... Enfin, ça ne l'a pas fait, elle. Finalement, elle avait un projet avec les chevaux, elle s'est intégrée. Et je l'ai revue 2 ans après, donc ça c'est son camion aménagé, donc ça c'est sympa. Hein. Donc il y a tout un savoir-faire pour l'aménagement des camions, tout un... c'est vraiment une vraie question dans ce milieu où les gens essayent de vivre en semi-nomadisme, c'est une vraie vraie question et des savoir-faire incroyables. Et voilà. Et du coup ça c'est ses tatouages, il y a l'histoire de sa vie sur le tatouage, c'est dommage, j'ai pas le temps de développer, mais... Et elle m'a dit qu'elle se lâchait les cheveux, puis qu'elle se faisait pousser les cheveux parce qu'elle en avait marre qu'on croit qu'elle soit méchante. En fait, et du coup, y a une hybridation des gens et puis une hybridation des lieux aussi. Vous voyez, donc c'est assez rigolo quand on y va comme ça à des mois d'intervalle de voir les lieux changer, les gens aussi changer dans leur look. Et tout ça pour dire que ces lieux, c'est pas facile. Enfin, moi, un peu une des conclusions pour l'instant que je vois, c'est que c'est pas forcément facile d'y vivre à long terme. Souvent, il y a une euphorie au début et après, c'est pas forcément facile. Comme dirait Yann, qui vivait sur Vispins, on a plus de problèmes à plusieurs que tout seul. En fait, lui, c'était sa conclusion de sa vie en collectif. Enfin, bref. Donc, c'est pas forcément facile. Enfin, c'est pour un certain courage, enfin, une certaine. Pour y rester à long terme. Mais ce que j'ai vu, c'est que ces lieux, finalement, il y a tout un réseau de lieux comme ça maintenant en France, hein, et qu'ils permettent, la vraie alternative qu'ils permettent, c'est ce semi-nomadisme de gens qui vivent en camion, qui sont de passage, et qui permettent d'oxygéner les relations aussi au sein de ces collectifs. Et de ces collectifs, du coup, où il y a un vivre ensemble avec des gens qu'on n'a pas forcément choisis, mais du coup, qui amènent une certaine hybridation des cultures et des modes de... Enfin, voilà. Bon, merci.
Alors, merci beaucoup pour ce survol des différentes...
Je suis désolée.
Pas de soucis, donc on va peut-être quand même essayer de prendre vite une ou deux questions en donnant la parole au public. Une question.
C'est juste pour remercier Maïté, tous les autres intervenants, les organisateurs et ceux qui nous accueillent, les institutions aussi qui nous financent, hein, que ce soit PIN... l'Iris, etc., parce que c'est quand même pas mal de pouvoir inviter les gens.
Oui. Et merci, hein, voilà. En fait.
Et donc, on n'est plus tout à fait dans l'autoproduction, quand même, il faut le dire. Il n'y a plus beaucoup de piles là-dedans. Merci, Maïté. Et je trouve quand même que ça ouvre, je n'ai pas une question, mais un petit commentaire sur quelque chose qu'on a peu fait, c'est-à-dire ouvrir. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait le punk quand il n'est pas à un concert, quand il n'est pas en train de jouer
voilà. Sur le style de vie.
Il est manutentionnaire, il fait ça, il vit où, qui fréquente, etc. Et c'est-à-dire que si on veut sortir d'une forme aussi, justement, d'exotisme. Hein, le supporter érigé en Lugan, etc. Bon, ben voilà, le punk, il fait quoi dans la vie? Voilà, qu'est-ce qu'il a? Il est pas, il est punk, d'accord, mais il a une vie, il a des besoins, des obligations, etc. Et du coup, c'est une invitation à continuer. L'année prochaine, on reprend ce séminaire. Il est ouvert aux non-chercheurs. Bon, c'est studio, etc. Hein, il est ouvert aux chercheurs. Donc, la recherche, on essaye aussi de la transmettre et de la faire, de la co-construire. Voilà, c'est ça aussi le but. De tout ça. Merci, je repasse la parole à Solveig.
Donc, tout ce qu'on a entendu aujourd'hui sera en ligne sur le site de PIND, donc maintenant vous savez où aller. Et pour ceux qui sont parisiens et qui veulent revenir, on organise le 13 octobre ici une journée un peu spéciale qui est une espèce de bilan de tout ce qu'on a fait cette année, de partout où on est allé. Il y aura aussi des tables rondes avec les acteurs, sûrement sur le thème des archives, je pense. Et derrière, on fait un petit concert dans la salle du bas, pour le coup, on fait un bœuf tous ensemble et vous êtes évidemment tous invités. Voilà, merci beaucoup pour votre présence attentive aujourd'hui, puis bon été.